Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus pas grand,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de pauvre. C'est du temps pour les pas toucher. C'est quand même curieux. 100 fois, tu dis. Jamais, je tombe en panne.
Merde, on a
aujourd'hui, mercredi 17 juin, c'est la Sainte Police française. Sainte Police française est la sainte patronne des collaborateurs, des voltigeurs, des étrangleurs, des éborgneurs, des matraqueurs, qui sont les garants de l'ordre républicain et de nos libertés. Aïe, aïe ! Non, non, nous n'aurions pas pu canoniser Sainte Police française sans dessiner ensemble, tous ensemble, les contours de la continuité de son œuvre dans le temps. Œuvre historique incarnée par ses chefs, de Bousquet à Castaner, en passant par Pasqua et Hortefeux, ainsi que leurs valeureux préfets qui, de Papon à l'Allemand, ont su incarner cette idée de l'honneur de l'ordre, de l'ordre de l'honneur, de l'honneur de l'honneur, des choses qui sont si nécessaires à l'exercice ingrat du métier de milicien du capital. Comme l'a si bien dit un joueur de poker célèbre surnommé la Castagnette, ce n'est pas parce que Sainte Police française a la rafle du Veldiv et l'arrestation de milliers de résistants sur son pédigré qu'il faut lui jeter le pavé. D'ailleurs, vous noterez que beaucoup d'entre eux, les résistants, étaient des métèques ou des communistes, et qu'à l'époque, un petit peu d'histoire, messieurs, dames, le communisme était une menace majeure qui pesait très fortement sur la qualité des relations du couple franco-allemand. Et ce n'est pas pour un Houssekin ou un Traoré ou pour quelques centaines d'autres délinquants cardiaques et anti-blancs que l'on va généraliser. Comme si la police avait été raciste. Ben non. Regardez, cette tapette de Steve Canisso et ce gitan de Cédric Chouviot. Eh, c'était pas des crouilles, hein. Ni des négros.
Assurez-vous, c'est français, c'est la police française.
Au
aujourd'hui, nous, sur des unités d'interpellation, 98% des gens interpellés sont des personnes issues de la communauté maghrébine.
Je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe.
Face à l'offensive, face à l'attaque en règle menée contre l'honneur de Sainte Police française, dont les adeptes errent désespérés dans ces rues livrées à la vindicte du racisme anti-blanc et où il serait désormais interdit d'étrangler, heureusement, la République et à travers elle son président, qui est très content de tout ce qu'il a fait, s'interpose pour protéger les plus faibles d'entre nous, les flics. Comment protéger Sainte Police française? Eh bien, en faisant appel aux experts, aux plus grands experts de l'antiracisme, Éric Zemmour, Pascal Praud, Valeurs Actuelles, et tout ce que le Rassemblement National, le parti préféré des Pandores, compte comme défenseur du peuple bleu. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Jean-Claude Le Pen, André Le Pen, Mamadou Le Pen, Abdelkader Le Pen, même vas-y, tous sur BFM. Ah bah ouais, bah quand il faut agir contre l'antisémitisme, les gars, on prend les meilleurs, hein. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien la Macronie qui a canonisé Sainte Police française. Alors attention, qui protège en dernier recours la Macronie? Sainte Police française, on est d'accord. Et qui monte au front pour protéger Sainte Police française? La Le Penerie, ah oui. Et qui exfiltre les fachos, hein, qui s'excitent comme des petites chattes sur les toits brûlants de l'Allemand, alors, hein, qui les exfiltre, hein? Bah, leur complice, la police. Eh les gars, Macron-Le Pen, c'était le nom d'un second tour ou celui d'un mariage?
Assurez-vous, c'est français, c'est la police française.
Aujourd'hui, nous, sur des unités d'interpellation, 98% des gens interpellés sont des personnes issues de la communauté maghrébine.
Je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe.
Aujourd'hui, mercredi 17 juin 2020, le soleil s'est levé, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourets. Il va se coucher, mais des furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur le campus Lille.com avec un clin d'œil complice, très complice, vers Maurice Rachfus. Ce soir et au lendemain de la mobilisation du 16 juin, eh bien, avant le 16 juin, nous avons eu l'occasion d'interroger, sans les menottes, des camarades qui ont des responsabilités au sein d'une organisation syndicale bien connue et qui les trois exercent des professions très différentes, puisque à la fin de l'émission vous entendrez un cégétiste nous parler de l'éducation nationale, auparavant eh bien ce sera la métallurgie et dans un premier temps les métiers du commerce. C'est l'heure de le mettre.
Maréchal, nous revoilà, nous les petits enfants de France, nous que tu as rassérénés, à qui tu donnais l'espérance et des biscuits vitaminés. Maréchal, nous sommes là pour demander ton indulgence. Car comme le dit Isarni, c'était toi la vraie résistance. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est vrai qu'on s'en serait pas douté, que maréchal tu résistais, quand de Montoir tu nous disais, Français il faut collaborer, quand t'envoyais ta LVF combattre l'armée des soviets, alors qu'on pensait bêtement, c'est peut-être pas le moment. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
nous qui allions les jours de fête, chanter à Lille ou à Mâcon, ton hymne de nos voix fluettes, sans savoir qu'il était si con. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Toi qui n'étais pas responsable de tous les crimes hitlériens, puisque bon vieillard respectable, évidemment, t'en savais rien. C'est vrai, maréchal, tu ignorais que tes miliciens torturaient. Tu condamnais De Gaulle à mort sans savoir que ça lui ferait du tort. Quand Hitler t'a dit « Vite, vite, votez les lois antisémites », tu as dit « Trop tard, mon Führer, je les ai fait voter hier ». Maréchal, nous revoilà.
Nous revoilà.
Nous les anciens de la famine, pour te remercier des biscuits. Car je sens que ta vitamine va faire son effet aujourd'hui. Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Pour que certains sortent d'un doute. Toi qui disais que les Français avaient tous la mémoire courte, ils vont voir que tu te trompais. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Maréchal,
maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Maréchal,
maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
C'est l'heure de le mettre sur Radio Campus. Nous sommes avec Ella Jinyang.
Oui, bonjour Sam. Donc c'est Ella Jinyang. Donc je suis secrétaire fédérale de la branche prévention, sécurité et sûreté aéroportuaire. Et je suis référent du commerce dans le département du Nord. Et j'appartiens à la Fédération du commerce et des services.
CGT. C'est bien ça. Bref, en gros, tu t'occupes du commerce et en particulier, on peut le dire, de la sécurité, ces agents de sécurité qui sont chez vous à la CGT rattachés au commerce, c'est bien ça. Hein. Les agents
voilà,
de sécurité privée. Hein.
Voilà, c'est ça.
On t'appelle pour faire peut-être un bilan, même si on peut pas dire que l'épidémie est définitivement terminée, hein, qu'il faut rester prudent là-dessus, mais que bon, de fait, on est dans une phase de déconfinement assez assez large maintenant. Quel prix les salariés du commerce ont payé de cette épidémie, parce qu'ils font partie de ces premiers de corvée, hein, ceux qui étaient en première ligne. Quel prix ils ont payé et quelle reconnaissance ils ont eu?
Oui, donc il faut savoir que déjà je salue tout le personnel du commerce. Déjà je commence par la santé qui nous ont soignés, mais ensuite du commerce et des services qui ont assuré la continuité de l'activité développant aussi l'économie du pays. Mais ils sont oubliés, ils ont payé le prix fort. Il faut savoir que ce soit les caissières, que ce soit les agents de sécurité, aujourd'hui, ils ont enregistré pas mal de décès. Quand je prends le secteur de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire, avant même qu'il y ait encore le confinement, j'avais alerté les ministres et les employeurs de cette branche en leur disant de fournir les moyens nécessaires. Donc, ils n'ont pas répondu, ben, ça n'a pas manqué. Le premier décès qui a été enregistré dans le secteur du commerce, c'est un agent de sécurité, un chef d'équipe et qui était élu CGT, voilà, dans un grand centre commercial à Paris. Donc, après cela, donc, ça s'est enchaîné avec d'autres personnes qui sont au niveau des caissières, notamment à Carrefour, voilà. Donc, aujourd'hui, malgré ce que, effectivement, que nous avons signalé, les moyens de protection, ils ont risqué leur vie. Ils sont pas partis travailler parce qu'ils aiment leur travail, ou sont pas partis travailler parce que tout simplement ils veulent que l'économie fonctionne, mais parce qu'ils sont dans la précarité. La plupart des gens qui sont partis travailler, ils sont précaires. Ils sont précaires et ils n'ont pas le loisir de faire du télétravail. Donc ça, c'est très important qu'il faut souligner, tout en sachant que les grands groupes qui leur disaient effectivement vous allez avoir des primes de 1 000 euros pour ceux qui aillent travailler, il faut savoir que ils se comptent au bout des doigts. Ils ont même pas 1 000 euros. Dans le commerce, par exemple, dans les grandes surfaces, la plupart, ils ont un contrat temps partiel. Donc, cette prime-là est prioritisée, premièrement, avec leur contrat de travail. Et deuxièmement, ils ont enlevé les jours d'absence.
Donc la question des 1 000 euros, c'était du bluff, c'était de la communication.
Exactement, c'était de la com. Et je trouve inadmissible, à cette période de crise où des personnes laissent leur vie et qu'on fait des communications dans ce sens, c'est inadmissible.
Alors, la crise sanitaire est en voie d'être de passer, ou en tout cas de, enfin, on va encore une fois être prudent. Mais il y a une autre crise qui englobe, d'ailleurs, dans laquelle la crise sanitaire est englobée. C'est la crise du capitalisme, donc la crise économique et financière. Tout début du confinement, on se souvient que les bourses ont plongé complètement, et on sait que le système capitaliste va de crise en crise, et qu'elles sont de plus en plus importantes, et qu'il y avait des choses qui étaient prévues quand même dans le chapeau des capitalistes, c'est de se débarrasser d'un certain nombre d'enseignes. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce qui est prévu comme, alors je sais que par exemple ici dans la région à Roubaix, il y a Camaïeu qui a décidé de fermer, etc. Est-ce que tu peux faire un bilan national ou local, enfin peu importe de, okay.
Oui, comme tu l'as dit, hein, donc il faut savoir qu'il y en a pas mal d'entreprises, y compris même le gouvernement, qui ont profité de cette crise pour faire un petit peu du balayage, ou bien même pour renforcer le capitalisme. Même si ils ont dit qu'ils ont perdu de l'argent, mais il faut pas y croire. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ont profité et qui ont fait encore des bénéfices là-dessus. Je donne un exemple. Quand on prend, par exemple, je dis pareil, toujours pareil dans la sécurité, par exemple, il y en a certains qui travaillent. Les entreprises, ils ont déclenché pas mal sur le chômage partiel. Alors, on sait très bien que dans la sécurité, parce qu'il y a la sécurité d'une partie et il y a la sûreté de l'autre partie, la sûreté, c'est les aéroports, eux, ils ont fermé. Mais la sécurité, il y a une augmentation des demandes de prestations. Ça veut dire que si l'employeur, il déclare le chômage partiel et que les salariés travaillent et que le fonctionnaire, ils font du télétravail, là, je pense qu'ils ont obtenu beaucoup plus d'argent qu'on le pensait.
Tu peux te rendre compte qu'il y a une fraude au chômage partiel.
Exactement. Et moi, je pense que là, c'est le travail de tout le monde. Je pense que le fisc, l'URSSAF et tout ça doit bien regarder ça de près, parce que je pense que les chiffres donnés ne correspondent pas à la réalité.
C'est un secteur un petit peu mafieux en même temps, la sécurité privée, non?
Exactement. Bon, on y reviendra parce que je pense qu'il n'y a pas que ça et puis il y a beaucoup de choses voilà qui s'y passent.
Oui, et puis on peut pour aller dans ton sens, c'est qu'effectivement on a constaté pendant le confinement que notamment les grands magasins qui restaient ouverts pour justement notamment pour des raisons sanitaires, pour surveiller si les gens respectaient les gestes barrières, etc. Il y a eu des agents de sécurité qui ont continué à bosser, qui étaient même parfois plus nombreux que jadis, quoi. Hein.
Exactement. Tu viens de le dire. Donc je donne un exemple. Par exemple, si on prend une grande surface, si par exemple il y a 10 agents de sécurité qui travaillait, on peut les multiplier par deux. Il y en a 15 ou 20. Parce qu'à l'intérieur, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a quelqu'un qui circule pour regarder si les gestes barrières sont respectés, les distanciations. Au filtrage, on avait une personne peut-être. Là, il faut y en avoir deux ou trois pour regarder les files d'attente si c'est respecté. Donc, en grosso modo, ils ont augmenté le nombre de personnes, donc augmenté le volume de travail, donc augmenté du chiffre d'affaires.
Alors, oui, les charrettes de licenciement qui arrivent, hein. J'ai dit Camaïeu, mais il y en a d'autres peut-être.
Oui, donc là aussi, pareil, au niveau de l'habillement, il faut savoir que l'habillement est fortement touché. Donc nous, on a assisté sur Camaïeu qui est une entreprise internationale qui englobe à peu près plus de 300 magasins et plus de 3600 salariés, qui annonce un redressement judiciaire. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas consulté les instances. Ça veut dire qu'ils ont déclaré eux-mêmes, et c'est à leur demande, hein, à leur demande de la direction, qui demande de mettre la société, en redressement judiciaire. Et derrière, ils consultent, ils informent, je ne peux pas l'appeler consultation, ils informent les élus.
J'ai l'impression qu'avec cette crise, le patronat se permet tout. Là, en l'occurrence, ça peut paraître un détail, mais ce n'est pas un détail du tout. Avant de procéder à des procédures comme celle de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire, on consulte au moins, au minimum, quoi, les élus, les syndicats, etc. Et là, on a l'impression que le patronat se sent pousser des ailes, quoi, pour aller très vite.
Bah oui, ce qui est étonnant, c'est que quand on le regarde procéder ainsi, on pense qu'ils ont l'aval du gouvernement. Il faut savoir que les règles sont claires. Voilà. les règles sont claires. Quand on veut faire placer une société en redressement judiciaire, ça veut dire que la société va mal. Et quand la société va mal, il faut informer les élus, parce qu'ils sont là pour ça. Mm-hmm. Il faut les informer bien en avant. Mais ce qu'on assiste, c'est que même les élus, quand ils demandent par exemple la situation financière pour voir la santé de l'entreprise, ils refusent. Parfois, ils cachent des données, parfois, ils ne donnent pas, parfois, ils tardent.
Et c'est ce qu'on appelle le délit d'entrave, hein, juridiquement.
Exactement.
C'est du délit d'entrave, hein, oui.
C'est du délit d'entrave, donc voilà. Donc moi, je pense que sur cette affaire, il y a un vice de forme, parce que là, ils ont mandaté deux mandataires déjà, qui sont sur le dossier pour Camaïeu. Et à partir de là, ils vont désigner certainement un représentant des salariés, parce que ça, là aussi, c'est la procédure, qui va regarder, qui sera en lien entre la direction et les mandataires, et puis regarder comment s'y passe. Mais ce n'est pas un cas isolé. Hein. Donc là, je viens d'apprendre que Zara va procéder de la même façon. Donc il y a quelques années, on a eu aussi Pimki. Voilà, donc je pense que le commerce aujourd'hui... C'est très compliqué.
Tu dis que Zara va se trouver en position de redressement judiciaire, là, c'est
ouais,
ça?
Ouais, ouais, ils sont rentrés, oui. J'ai lu ce matin, donc, par la secrétaire fédérale qui s'occupe de l'habillement, que Zara est aussi en train de voir s'il va fermer des magasins ou pas. Donc, Zara, il faut savoir qu'aussi, pareil, c'est une entreprise internationale, hein. Ils sont présents au Maroc, ils sont présents en Belgique, ils sont présents en France, donc, voilà. Tout s'enchaîne. Et ce qui est grave dans tout ça,
oui.
Et ça, je viens de le découvrir hier.
Un décret, c'est ça?
Voilà, exactement. Le gouvernement, il a mis en place, ils ont voté un décret le 20 mai, et ce décret qui permet, quand il y a une entreprise qui est en difficulté, qui est placée en redressement judiciaire ou bien en liquidation judiciaire, l'employeur qui le place en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire peut racheter même cette entreprise.
Ça veut dire qu'avec l'argent public, on va renflouer une boîte, on va payer ses dettes, et les actionnaires peuvent revenir et reprendre l'affaire?
Exactement. Donc ça veut dire que la situation... Exactement, c'est beau. Bah oui, avec ce quinquennat, tout est permis, tout est beau. Donc il faut savoir que Camaïeu, par exemple, s'il décide, il le met en liquidation, en redressement, il peut racheter, il peut reprendre même en prenant cette dette-là, en l'étalant pendant 5 ans, 10 ans, et ainsi de suite, et que ce sont les contribuables qui vont, entre guillemets, payer, quoi.
Alors, on est avec l'un des responsables de la Fédération Commerce CGT, Ella Jinyong, une fédération qui, je pense, est importante dans la CGT, c'est-à-dire qu'elle compte sans doute beaucoup d'adhérents, et qui est révélatrice finalement aussi des changements qui ont eu lieu dans l'économie de ce pays et donc forcément dans le syndicalisme de ce pays. La CGT historiquement, bon bah c'est la CGT de la classe ouvrière, de la métallurgie, de l'industrie, avec des sites importants, avec des bastions, voilà. Et de plus en plus d'emplois industriels s'en est allé, et il reste les services. D'ailleurs, le nom de votre fédération, c'est bien Fédération CGT Commerce et Services, hein. Et donc ça englobe un très grand nombre de types d'emplois. Si je dis que c'est les plus précaires, les moins bien payés, que c'est beaucoup de temps partiel, que ça, c'est peut-être même une majorité de femmes, peut-être je me trompe, hein, mais et que y compris les populations issues de l'immigration postcoloniale y seraient peut-être plus représentées que dans d'autres secteurs. Est-ce que je dis des conneries d'abord? Et puis, quelle est la difficulté peut-être, et quels sont les enjeux pour la CGT de réussir à syndiquer et à organiser des gens qui, bien souvent en plus, se trouvent éparpillés, hein. Si on parle de Camaïeu, on parle de magasins, par exemple. Et pour toutes les grandes enseignes, c'est des magasins, Auchan, tous les autres, qui sont dispersés sur tout le territoire national, voire au-delà. Comment on fait pour faire vivre une fédération CGT du commerce aujourd'hui? Et quels sont les enjeux, je dirais, au-delà de l'enjeu de la syndicalisation, hein, les enjeux politiques, en vérité, de pouvoir raccrocher ses salariés à l'action collective?
Oui, comme tu l'as dit, hein, donc c'est un salariat très éclaté, mais vraiment très éclaté, parce que c'est du commerce et des services. Quand on prend du commerce, on prend la grande distribution, on prend le commerce des détails, le commerce de gros. Quand je parle de commerce de gros, c'est par exemple la restauration collective ou la restauration rapide. Donc tout ce qui amène les alimentations, par exemple, qui font les livraisons au niveau des écoles, au niveau des hôtels, donc c'est fait partie de notre fédération. Mais aussi des services, on en a parlé tout à l'heure, les agents de sécurité qui sont très très éclatés. Donc quand on prend une boîte au niveau national, ils ont un site par là, c'est 5 salariés, 2 salariés, 10 salariés, 20 salariés par-ci, par-là. Et beaucoup, comme tu l'as dit, d'une partie des étrangers, hein, ou bien qui viennent d'origine étrangère, et de l'autre partie, un salarié très féminin. Quand on prend les grandes distributions, il y a beaucoup de femmes. Quand on prend les assistantes maternelles qui font partie aussi de notre fédération, il fait 99,99 presque de femmes. Quand on prend, il y a que l'aéroportuaire où effectivement on a à peu près égal. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui palpent les femmes, ce sont les hommes qui palpent les hommes. Mais non, tout le reste, c'est largement majoritaire féminin. Quand on prend le domaine de la sécurité, on sait très bien que voilà, il n'y a pas photo. Ça se voit qu'il y a beaucoup de personnes, y compris moi-même, hein, d'origine étrangère et tout ça, qui travaillent là-dedans, et que la plupart, les choses ne sont pas très, très respectées. Donc nous, la fédération, on a des projets, on a des orientations, la communauté de travail, quand par exemple on prend un supermarché ou bien une grande surface ou bien un centre commercial, on trouve des agents de sécurité, on trouve des femmes de ménage, on trouve des caissiers et des caissières, et que là, c'est une communauté de travail. Donc nous, ce que tous ces gens-là, soit ils se regroupent en syndicat, soit ils se regroupent parce qu'ils ont un intérêt commun. Voilà, ils travaillent sur le même site, ils sont toujours frappés par la précarité. Et donc nous, on est en train de faire du collectif de travail pour qu'il y ait au moins un salaire décent. Voilà, qui les permet de vivre décemment. Et voilà, voilà aujourd'hui sur quoi on travaille pour tirer vers le haut cette précarité.
Une entreprise de sécurité, elle peut avoir un siège où, on va prendre cet exemple-là, elle peut avoir un siège social, je sais pas, à Paris, et puis effectivement avoir des sites secondaires, peut-être même parfois juridiquement, elles peuvent créer d'autres sociétés, etc. Enfin, c'est parce qu'il y a des géants quand même dans cette affaire-là. Hein. Je parlais de mafia tout à l'heure, mais il y a des géants de ce secteur-là qui emploient plusieurs milliers de salariés.
Tout à fait, tout à fait. Parce que si on prend, moi, je vais te citer par exemple, il y a quelques groupes, ils ont beaucoup de filiales. Ils ont un filial nettoyage, ils ont un filial sécurité, ils ont un filial intérim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le nettoyage, si par exemple il manque des salariés, ils vont se baser sur leur filiale intérim pour chercher des salariés. Si par exemple ceux qui sont dans l'aéroport, par exemple, il y a une fermeture ou quoi que ce soit, ils peuvent les prendre pour les mettre dans la sécurité.
Donc c'est parce que c'est des personnels qui bougent très très facilement. Et là, tu viens de citer trois secteurs, sécurité, nettoyage et intérim, où d'ailleurs l'immigration est surreprésentée, mais où les conventions collectives sont les pires, sont les pires du marché, si je puis dire. C'est-à-dire où les salariés sont les plus corvéables et à la merci du patron, quoi.
Oui, effectivement. Et puis même les salaires ne sont pas décents. Quand on touche à peu près, je donne par exemple l'exemple des agents de sécurité. Il y a 3, 4, 5, 6 mois, le coefficient 120 était en dessous du SMIC. C'est impensable. Un coefficient dans une profession comme la nôtre, hein, parce qu'il faut savoir que la profession d'agent de sécurité, aujourd'hui, le gouvernement, entre guillemets, veut se servir de ça pour remplacer progressivement les missions de la police, municipale. Mmh. Voilà, quand on voit par exemple, il y a l'euro qui va arriver. Là, on attend à une explosion de recrutement des agents de sécurité.
L'euro de football, voilà. Tu parles?
Non, comment ça s'appelle? Les JO.
Donc,
je me suis trompé. Donc, ouais. Voilà, donc là, on s'y attend. On sait très bien que les forces de l'ordre, ils vont pas tout couvrir. Donc là, on va assister à une explosion des agents de sécurité.
Et c'est des marchés lucratifs, hein. Très lucratifs.
Voilà.
Elle a dit, je pense à une chose, tu m'as dit, tu es bien agent de sécurité. Toi-même, à la base?
Oui, effectivement, à la base, je suis agent de sécurité, ouais.
C'est quoi ton niveau d'études, Eladji?
J'ai un nouveau master. J'ai ma licence, mais j'ai un nouveau master, ouais.
En sécurité privée? Mais comment ça se fait que tu fais agent de sécurité? C'est parce que tu t'appelles Eladji et que tu as un taux de mélanine élevé, tu crois? Parce
que c'était très difficile quand même de trouver du boulot. Hein. Donc il faut savoir que quand je faisais mes études, donc je faisais un peu de la sécurité et puis voilà, avec la précarité, voilà, on est resté dedans et puis voilà quoi.
C'est la question du racisme que je vais aborder maintenant. On l'a dit hein, à la fois peut-être dans les entreprises. Hein, il y a eu je me souviens de quelques affaires, notamment à Auchan, à Tourcoing, c'était. Enfin, c'est très présent, j'imagine, dans le milieu du travail, mais au-delà, et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Est-ce que aujourd'hui un militant CGT comme toi estime que c'est une priorité absolue de combattre ce racisme à la fois dans l'entreprise et au-delà, quoi?
Oui, je pense que le racisme. Bon, on a vu l'actualité, comment ça s'est passé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre partout et tout le temps. Je pense que pas seulement dans la sécurité, mais je pense que là, on peut plus fermer les yeux là-dessus. Voilà, parce que c'est quelque chose qui freine un développement, c'est quelque chose qui nourrit la haine, et que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit le prendre à bras le corps. On le voit par exemple dans les services, on le voit dans le commerce, on le voit dans les écoles, on le voit partout. Et ça, c'est très important. Et je pense que si aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit porter unanimement, au-delà même du syndicalisme, au-delà même des organisations syndicales, c'est combattre le racisme. Parce que au-delà du racisme, donc ça nourrit autre chose, c'est des violences. Voilà, parce que le racisme, ça amène la violence de part et d'autre, et que l'actualité nous le démontre. Voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, la base, c'est le racisme. Et que le racisme, moi, je pense qu'il n'a pas de place sur la société. Surtout quand on se montre dans un pays où, effectivement, on s'ingère dans comment ça s'appelle encore, dans les droits de l'homme. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, c'est l'affaire de tous.
Est-ce que la CGT, ton organisation syndicale, est-ce que quand tu parles aux syndiqués du commerce, est-ce que la CGT apparaît comme une organisation qui est antiraciste ? Ce qu'elle est, hein, je ne mets pas ça en doute du tout, mais est-ce que ça apparaît ? Est-ce que les gens que vous syndiquez savent aussi que c'est un enjeu essentiel du combat de classe, quoi ?
Oui, je pense que aussi bien toutes les structures, que ce soit un syndicat, union locale, union départementale ou fédération, la première chose, entre guillemets, c'est que le racisme n'a pas de place. D'ailleurs, quand on regarde la formation, par exemple, niveau 1, parce que tout syndiqué doit passer cette formation pour savoir qu'est-ce que c'est que la CGT, et dans cette formation-là, on précise bien, effectivement, que le racisme n'a pas de place au niveau de la CGT. Donc, la CGT est ouverte pour tous les travailleurs et tous les retraités et toutes les personnes qui sont, qui en ont besoin de trouver sa place dans la société. Donc, oui, ça fait partie même des piliers de notre organisation syndicale, CGT. Ça fait partie des éléments très, très importants et très essentiels.
Merci, Eladji Niang, donc, du commerce, de la CGT, la Fédération Commerce de la CGT, ici, dans le département du Nord. On va rester sans doute, on risque de se recroiser avec nos microbes dans les manifs et peut-être malheureusement dans les mobilisations contre les charrettes de licenciement qui arrivent, y compris donc dans le commerce, on l'a bien compris, avec, si on a toujours bien compris, le blanc-seing du gouvernement.
J'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligé de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je carre mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piquent, qu'auront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Ceux-là même qui nous dirigent et qui nous... Écoutez, camarades, écoutez la radio attentivement, les lundis à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
C'est l'heure de le mettre sur Radio Campus et après le commerce, on va parler de la métallurgie avec Ludovic Bouvier, responsable pour la région Nord-Pas-de-Calais de la CGT Métallurgie. C'est pas rien, mais avant qu'on évoque la métallurgie, il faut quand même qu'on informe nos auditeurs que là, l'entretien qu'on va avoir là maintenant, Ludovic et moi, c'est un entretien qui se passe dimanche soir, si vous voyez, vers 20h30 à peu près, c'est-à-dire après la locution de notre président. Et donc, deux jours avant, l'énorme manif qui s'est déroulée hier à Lille, et partout en France, et qui a été un succès de mobilisation extraordinaire. Mais ça, on peut pas trop en parler, Ludovic, parce que c'est plus du pronostic qu'autre chose, mais on en est sûr. Mais sur l'allocution de Macron, qu'est-ce que tu as retenu, toi?
Alors, tout d'abord, bonsoir. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que dès le départ, il cherche à avoir un discours, et il a un discours triomphaliste. Il a pas à avoir un discours comme celui-là. À partir du moment où c'est les travailleurs avant tout et les citoyens qui ont fait qu'on a pu passer cette crise, parce que le gouvernement a été en dessous de tout.
Ah, il n'a pas dit ça, ouais. Ça, il n'a pas dit.
Ah, non, ça, il ne l'a pas dit, mais pourtant, c'est la réalité. Et quand on sait que, pour prendre la profession la plus emblématique qui est la santé, ils ont été obligés, et encore aujourd'hui d'ailleurs, camarades de la santé pourraient le dire, de se promener avec des sacs poubelles pour pouvoir se protéger, sans masque et sans rien, alors que nous, dans la métallurgie, dans le même temps, pour parler de ce que je sais, les patrons de la métallurgie faisaient des stocks de masques, de plusieurs centaines de milliers de masques dans certaines entreprises, notamment Bombardier, alors que les travailleurs de la santé n'avaient aucune protection pour faire face en première ligne face à ce virus. Donc,
ouais, faut dire que la métallurgie, c'est stratégique, hein, pour les patrons comme pour les ouvriers, finalement, parce que historiquement, la métallurgie, c'est un bastion de la classe ouvrière, c'est un bastion de la CGT, pour les patrons aussi, hein, puisqu'on sait quand même que la branche, on va dire la branche armée du MEDEF, c'est l'UIMM, et de longue date, hein, l'ex-comité des forges. Pourquoi ? Parce que la métallurgie structure l'économie d'un pays, hein. La métallurgie, c'est plein de choses, c'est tous les transports, déjà. C'est l'automobile. Mais
justement, restons dans le thème de ce qu'a dit Macron. Ouais. La métallurgie aujourd'hui, évidemment que c'est, y compris dans cette crise du Covid que l'on vient de vivre, un secteur stratégique. Le gouvernement laisse fermer Luxfer, qui est une entreprise qui fabrique des bouteilles d'oxygène et qui sont les seules à le faire en Europe, d'aluminium, et qui auraient servi là à cette situation. Ils ont fermé quelques mois avant, laissant sur le carreau, y compris ses travailleurs. Quand on sait que dans l'agroalimentaire, on a Cargill au Bourdin, qui était menacée avant la crise sanitaire de licenciement de 180, plus de 180 salariés sur Bourdin. Alors là, c'est la chimie sur le coup, mais enfin, c'est l'agroalimentaire, c'est l'industrie pharmaceutique. Ils atomisent les...
Oui, ils font de l'amidon, qui rentre dans la composition des médocs et tout.
Et aujourd'hui, le patronat garde son projet et rien. Le gouvernement n'intervient pas sur ces sujets-là. Et si les travailleurs ne luttent pas pour préserver leur emploi, c'est certainement pas le gouvernement qui ira à leur secours. Il laissera le patronat, évidemment, fermer ces entreprises-là qui étaient des entreprises indispensables durant toute la crise du Covid et qui, aujourd'hui, ne le seront plus demain. Le monde d'après, c'est le monde d'hier, à la manière de Macron et de son gouvernement.
Cette industrie métallurgique, je disais, donc c'est en vérité, parce que bon, on nous a fait croire, je pense que t'as un petit peu de bouteille aussi, donc on nous a fait croire il y a un certain temps que l'industrie c'était terminé, la classe ouvrière il n'y en avait plus, qu'on pouvait vivre dans une société de services, etc. Et puis en vérité, les actionnaires ont délocalisé ces industries stratégiques pourtant. Et on s'est débarrassé donc de ça. Malgré tout, je veux dire, les gens continuent à avoir des machines à laver, des voitures, ils continuent à rouler en train, les avions, c'est aussi de la métallurgie. Enfin, il y en a partout. Cette activité stratégique, elle a été délocalisée au fil des années, puisque elle existe encore, bien sûr, mais ailleurs. Quelle était la volonté des patrons de sortir cette industrie qui était quand même importante quand même en France, hein, faut le rappeler, dans notre région, mais aussi dans l'Est notamment. C'était pourquoi ?
Ah, c'est avant tout toujours pour les mêmes raisons, toujours faire plus de pognon. Aujourd'hui, quand on regarde notamment l'industrie automobile, mais pas que, on pourrait élargir le débat, mais pour prendre cet exemple-là, et on l'a vu très récemment avec Renault, et notamment dans la région, où la direction de Renault oppose directement les travailleurs de Maubeuge avec les travailleurs de Renault-Douai, parce que la direction de Renault, qui est un bon exemple d'ailleurs, mais PSA aussi, ont délocalisé l'ensemble de leur production thermique, de moteurs thermiques, donc essence et diesel, à l'international et dans les pays dits à bas coût. Donc on va exploiter les travailleurs dans les pays de l'Est, notamment au Maroc, en Algérie, etc. Et on met en concurrence l'ensemble des travailleurs de la métallurgie là dans ces domaines. Alors c'est encore une fois vrai pour l'automobile, mais c'est vrai pour toute l'industrie. Et aujourd'hui, on cherche à nous vendre cette transition écologique, sachant que écologie et capitalisme ne feront jamais bon ménage. Et c'est important de le dire, parce que aujourd'hui, ce qu'on cherche à nous vendre, par exemple dans l'industrie automobile, c'est le tout électrique. Et là, une nouvelle fois, Renault, avec Maubeuge et Douai, ça serait un pôle d'excellence électrique sur la région Nord. Mais au final, on se retrouvera évidemment avec un gros problème, parce que l'électrification des véhicules, c'est tout sauf la solution, et on le sait.
Ce serait quoi la solution, tiens ?
Pour plein de raisons. Mais je pense qu'aujourd'hui, la technologie dont on est capable de faire, y compris on serait capable de faire des véhicules qui roulent sans aucune énergie et sans y apporter, mais bon, là, il y a une question d'économie. Évidemment que les véhicules électriques, il va falloir y amener l'électricité, tout comme le pétrole pour les thermiques. Il n'est pas question d'avoir des véhicules qui roulent à vie et sans aucune consommation autre. Le capitalisme est derrière. Or, je pense qu'aujourd'hui, on a ces technologies, le solaire, on a l'hydrogène. Mmh. Alors, l'hydrogène, évidemment que, et dans la région, on a notamment Dunkerque, hein, qui serait capable, sur Dunkerque, on serait capable de produire beaucoup d'hydrogène. Mais je pense qu'on est capable même d'aller plus loin. On est capable d'avoir des voitures demain qui roulent,
sans apport d'énergie. Si je te comprends bien, dans le cadre du capitalisme, ça, c'est pas possible, quoi.
Ah non, c'est pas possible. Non, le capitalisme ne peut pas réfléchir et ne veut pas réfléchir en fonction du bien-être des populations, des travailleurs et de la planète. C'est les premiers à la détruire.
Il y a quelques années, je pense, 2, 3, 4 ans, on recevait un certain Dominique Benne, je m'en souviens là maintenant, de ton organisation syndicale, la CGT, qui parlait justement d'un projet ou de quelque chose qui était en cours à Dunkerque sur l'hydrogène notamment. Oui. C'est de ça dont on parle, ouais.
Tout à fait. Parce que à l'époque, comme souvent, la CGT est précurseur dans ce genre de réflexion, puisqu'on sait anticiper les choses parce qu'on a quand même des éléments qui nous le permettent. On connaît quand même bien nos tables sur l'industrie et même au-delà. Et donc, quand Dominique disait ça, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Allemagne, ça a communiqué dans les médias ces derniers jours, l'Allemagne va investir très, très massivement dans l'hydrogène. Parce que l'électrique, si demain le parc des voitures devenait entièrement électrique, en France, il faudrait refaire 2 EPR.
Les centrales nucléaires, hein. Des grosses.
C'est pas possible. Mmh. Déjà, on a déjà beaucoup de mal à en avoir une. et puis la pollution au travers le nucléaire, on la connaît aussi et on sait les conséquences que ça peut avoir. Voilà, c'est pas possible. Et puis il y a le problème d'approvisionnement, les bornes, etc. Et l'autonomie. Aujourd'hui, les voitures électriques, c'est 10% du parc automobile, en tout cas en achat neuf. Donc c'est c'est peanuts, quoi. C'est rien du tout. Parce que, bah, essaye de partir dans le midi avec une voiture électrique. tu vas comprendre tout de suite, tout simplement.
On a dit, ça a délocalisé. La France est désindustrialisée, contrairement à l'Allemagne dont tu viens de parler. Hein. Mais il en reste. Dans notre pays et dans notre région, peut-être singulièrement. Qu'est-ce qui reste finalement? Il reste un peu d'industrie automobile. Est-ce qu'il reste encore de la sidérurgie?
Non, on est aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, la première région de fabrication automobile en France. Mmh. On est la première région de fabrication ferroviaire en France, avec les deux constructeurs présents dans la région, Alstom et Bombardier. Et au niveau sidérurgie, c'est la même chose. Un peu par défaut, il faut le dire, parce que on est devenu la première région automobile quand on est fermé. Ça a été pareil pour la sidérurgie avec la casse de cette industrie dans l'Est. Pour le ferroviaire, c'est un peu différent, mais puisque historiquement, on a toujours eu une forte industrie ferroviaire dans la région. Donc voilà, on a une industrie très forte. On a un peu d'aéronautique, notamment avec SKF à Rouvigny, qui fabrique des roulements à billes pour l'industrie aéronautique, qui d'ailleurs là, je suis très inquiet parce que SKF, c'est -35%. Depuis quelques semaines, -35% d'annulation du carnet de commandes. Donc, et c'est vrai pour tout l'aéronautique.
Alors, la semaine passée, on diffusait une interview exclusive de ton secrétaire général, de Philippe Martinez, qui nous racontait qu'avec l'annonce des suppressions d'emplois à Renault, l'action en bourse avait augmenté et que notamment un actionnaire bien connu qui s'appelle Carlos Ghosn, qui coule des jours tranquilles au Liban, avait gagné en une journée 3 millions d'euros. Ça t'inspire quoi?
Aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui sur ce fait d'actualité et a toujours été vrai. Dès que le patronat annonce des licenciements, les actions en bourse montent en flèche. Et d'ailleurs, on a un autre exemple très parlant, c'est la même chose pour Danone avec Pénicaud, qui a gagné plus d'un million d'euros, je crois que c'était 1,5 million, suite à l'annonce, et elle était bien au courant de ce qu'elle faisait. Et il n'y a rien d'illégal, évidemment, c'est totalement immoral, mais il n'y a rien d'illégal. Moi, ce que ça m'inspire aujourd'hui, quand on regarde la bourse, il n'y a plus aucune, il n'y a jamais eu d'ailleurs, mais c'est de moins en moins, il n'y a aucune réalité entre ce qui se passe sur les cours de bourse et l'économie réelle. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, on est, et là, les risques que tout s'effondre. Alors moi, je dirais que je ne pleurerai pas sur le système capitaliste.
Mais le problème, c'est que ça va s'effondrer sur nous, et notamment sur les travailleurs.
Évidemment qu'il y a des conséquences, voilà, c'est ce que j'allais dire, si tu me le prends de la bouche. Évidemment qu'il y aura des conséquences sur l'ensemble des populations et les travailleurs.
Tu sais les mesurer, là, au niveau de la métallurgie, les désastres à venir?
Je pense très, très honnêtement qu'au-delà des licenciements par milliers, des fermetures d'entreprises, que ce soit dans la métallurgie ou ailleurs, d'ailleurs, qui s'annoncent très vite, l'effondrement de l'économie peut faire que tout s'arrête, tout simplement. Et c'est d'ailleurs Karl Marx qui l'a bien mis en évidence. Ouais. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et il n'y a plus rien, quoi, pour faire simple. Parce que c'est pas si simple que ça, Karl Marx. Mais pour faire simple, c'est tout peut s'arrêter et voilà. Et donc là, il faut absolument, je pense, que les travailleurs, que toutes les forces progressistes aient un véritable projet alternatif au moment où ça va arriver. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail souffre de ça et les peuples souffrent de ça, c'est qu'il n'y a pas de véritable alternative qui sont mises sur la table aujourd'hui pour pallier. Parce qu'on nous vend quand même le capitalisme comme un bienfait.
Comme un horizon indépassable. Il n'y a pas autre chose.
Il n'y a rien.
Comme militant CGT, est-ce que tu penses que la CGT, ça suffit, je dirais?
Non, écoute, alors, parce que dire ça, si je te disais oui, c'est être nombriliste.
Ouais, d'autant que c'est pas la CGT avec 2 millions d'adhérents, quoi.
Mais et je ne le suis pas. Et donc, je pense que, non, au niveau du pays, la CGT reste une organisation très importante, puisque c'est, y compris, la seule organisation en Europe encore révolutionnaire, en tout cas à la base, précisons-le. Et je pense que le problème, mondial et international. Donc là, non, on ne peut pas dire que la CGT va régler les problèmes. Par contre, enfin, dans tout cas, l'ensemble des problèmes de la planète. Mais je pense que la France est un pays particulier, avec une histoire particulière, une histoire sociale particulière, qui a toujours porté très haut les luttes au niveau international.
Ouais.
Parce que les répercussions ont toujours, et là c'est historique, on peut pas le changer, les répercussions ont toujours eu lieu, notamment en 68. Hein.
Entre autres. À propos de ça, c'est des questions qui sont parfois un peu polémiques, y compris au sein de la CGT, la question de l'Europe notamment. Là, Macron n'envisage un avenir et des soi-disant réformes qu'il pourra pas mettre en œuvre de toute façon, mais que dans l'Europe, il parle d'indépendance, mais dans l'Europe, cette Europe qui a été la construction européenne, hein, je parle pas du continent, la construction européenne qui a été critiquée de manière marxiste très importante, notamment par Georges Segui, Henri Krasucki, les anciens de la CGT, etc. C'est une question très très polémique et elle aurait pu, elle est peut-être encore là, sur la question de PSA qui voulait, hein, je dis bien qui voulait, puisqu'apparemment serait revenu en arrière, tu vas me confirmer ou pas, faire venir des travailleurs polonais et espagnols de PSA, bien sûr, hein, mais les faire venir ici en France. Quand tu as appris ça, tu t'es dit comment tu as abordé cette question-là, parce que c'est... Après, on sait que les fachos, derrière, eux, ils vont se saisir de ça pour une vision chauvine de...
Évidemment. Et ils l'ont fait, d'ailleurs.
Oui, ils l'ont fait, bien sûr.
Tout d'abord, pour reprendre l'ensemble de tes propos, en tant qu'internationaliste, moi, je suis avant tout un citoyen du monde. C'est important de le dire. On ne peut pas avoir une vision internationaliste. Se s'opposer au capitalisme, c'est avant tout de dire il faut faire tomber les frontières. Les travailleurs...
n'ont pas de patrie.
n'ont pas de patrie, voilà. Et les patrons non plus, d'ailleurs, hein, pour exploiter des travailleurs.
C'est là que se trouve la contradiction. C'est que là, en l'occurrence, c'est un système qui fait que les patrons peuvent se servir, en vérité, de main-d'œuvre. Parce que je pense même qu'à PSA, il y a question de faire bouger des gens à l'intérieur même du territoire national. Donc là,
Mais il faut savoir que depuis... Il y a des accords de compétitivité qui sont signés chez PSA, par les réformistes, il n'y a que la CGT qui n'a pas signé. Et ces accords de compétitivité notent la mobilité au sein du groupe, et donc ça existe déjà. Et nous, on y est totalement, et on y a toujours été totalement opposés. C'est d'ailleurs pour ça que mes camarades de PSA Ordin, le syndicat CGT d'Ordin, a voté contre cette mesure. Alors, non pas parce qu'on ne voulait pas voir arriver les Polonais, non. Parce que la question, elle se pose comme ça, c'est est-ce que c'est un bienfait de jeter sur les routes des travailleurs venus d'Europe, de France, peu importe, d'Espagne, d'Allemagne, puisqu'il y a les Allemands, les Espagnols et les Polonais, il n'y a pas que les Polonais, et y compris les travailleurs français, de jeter sur les routes les travailleurs, les arracher de leur famille, les déraciner de leur région pendant des mois, avec toutes les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue privé sur la vie des travailleurs. Non, c'est pas possible d'accepter ça. Et aujourd'hui, nous on dit, et les revendications sont très claires au niveau de PSA pour le syndicat CGT, c'est que nous exigeons la répartition des productions de voitures partout sur les sites en Europe pour occuper tout le monde. Si ça suffit pas, il faut exiger la réduction du temps de travail. Pour que là aussi on puisse avoir une activité pour tous, l'augmentation des salaires à hauteur de 300 euros, parce que aujourd'hui la direction de PSA brandit le fait que ce sont des volontaires, tous ces travailleurs là qui viennent d'un site à un autre, bah oui, évidemment qu'ils sont volontaires. Parce que ils sont volontaires,
parce qu'ils ont faim.
De la faiblesse des salaires, bien sûr, la faiblesse des salaires. Et aujourd'hui, on peut comparer facilement les travailleurs polonais et les travailleurs français qui sont volontaires parce qu'ils viennent pour les mêmes raisons.
D'ailleurs, on verra peut-être des travailleurs français aller travailler en Pologne.
Mais évidemment, je lisais tout à l'heure sur un canard que de mes yeux. donc le patron du MEDEF, pour être précis, était intervenu dans l'émission d'LCI Grand Jury, où il a un discours, en plus il donne des leçons, il donne des leçons aux travailleurs et aux populations en disant mais on peut pas continuer comme ça, ils sont pour, et il dit qu'il est pour un SMIC européen, et certainement pas pour les mêmes raisons que nous, hein.
Pas au même niveau, c'est pas le même chiffre.
Voilà. Et donc là on voit bien que PSA a lancé la balle, et que l'autre la rattrape rapidement pour dire mais il faut que ça se multiplie, ce genre de choses. Le PSA, ça suffit pas.
Mmh. Oui, si je dis, c'est ce que je disais à Eladj tout à l'heure, à Eladj Niang du syndicat du commerce, on a l'impression, quand on regarde des choses d'à peu près, quoi, hein, que avec cette crise du Covid, là, le patronat se sent pousser des ailes et ose beaucoup de choses.
Bien sûr. Alors, et il se sent pousser des ailes pour plusieurs raisons. Alors déjà, disons-le, Macron vient de parler ce soir, il dit à un moment, il faudra travailler et produire plus, davantage. Mm-hmm. C'est exactement ce qu'il dit. voilà. Donc là, ça augure évidemment un certain nombre de choses. Remise en cause du temps de travail, dans le langage Macron, c'est ce que ça veut dire. Remise en cause du temps de travail et un certain nombre de mesures. Baisse des salaires, puisque là, les patrons ont déjà engagé, ils sont totalement décomplexés. Et ils sont totalement décomplexés parce que, aussi, le gouvernement, qui a totalement à leur botte, leur a donné un certain nombre de...
De garanties, ouais.
De garanties, notamment au travers de la loi travail, les ordonnances Macron, etc., etc. Et ils continuent de leur donner des garanties, il va continuer à leur en donner. Et donc, ils iront aussi loin qu'ils pourront aller. L'exploitation n'a pas de limite.
Dis-moi, Ludo.
Jusqu'à l'esclavage.
Ouais. Dis-moi, Ludo, le temps passe vite. Si on ferme une grosse usine, ou voilà, comme il prévoit de le faire, de métallurgie en particulier, je le disais tout à l'heure, c'est quand même ce qui structure l'économie. Est-ce que c'est que ils vont fermer une usine, il y a 300 bonhommes dedans. Est-ce que c'est que les 300 bonhommes qui sont concernés avec leur famille, ou est-ce que là aussi il n'y a pas de la sous-traitance beaucoup dans le secteur? Est-ce que
le ratio est assez simple?
Non, parce que juste. Quand on regarde un territoire, je ne sais pas si tu le connais de près, moi pas forcément de près, mais en Moselle, Longwy, machin, etc. Oui. Quand ils ont fermé la sidérurgie, c'est devenu, c'est pas un désert, c'est devenu un truc de, c'était la misère à fond, quoi.
Bien sûr, mais historiquement, t'as pas besoin d'aller si loin. Si tu prends Denain et Usinor,
ouais.
Ils s'en sont toujours parmi. Hein.
Ouais, ouais.
Donc le ratio est assez simple. On sait qu'aujourd'hui un emploi industriel dans une usine de Nord-Ordre, c'est 3 à 4 emplois induits. Mmh. Donc y compris service public, etc. Puisque tout le monde dérouille. Et oui, c'est un désastre pour tous. Et je pense que malheureusement, on aura certainement à en reparler, parce que les choses pointent très rapidement. Et j'ai pu pointer un certain nombre d'attaques là, du gouvernement, mais on en a parlé là tout le long de l'interview. Et ça va pas s'arrêter, ils vont continuer. Et c'est pour ça d'ailleurs que la région métallurgie du Nord-Pas-de-Calais, CGT a appelé à l'action du 16.
Hier donc.
Voilà, et on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas, et on va continuer à appeler et à mobiliser l'ensemble des travailleurs de la métallurgie sur leurs revendications, parce qu'il y a aussi des revendications qui sont en suspens, hein, notamment sur le maintien et l'amélioration des garanties collectives, des conventions collectives et du dispositif collectif qui est menacé là par l'UMM au niveau national, où ils veulent tout remettre à plat, et évidemment aura des patates.
Pour conclure, Ludovic Bouvier, dont je rappelle un responsable CGT pour la métallurgie dans toute la région, on parlait un petit peu là des Polonais, des Espagnols, et en vérité de ce que veut imposer le système, c'est-à-dire un nomadisme des travailleurs, quoi, hein, qui sont considérés ni plus ni moins comme des marchandises, finalement. Hein, on sait que ça peut être récupéré par l'extrême droite. L'extrême droite, je sais pas si tu as remarqué, mais on la voit beaucoup là sur les plateaux de télé, partout, etc. Parce que sur cette question du racisme, qui est structurelle dans ce pays quand même, hein, qui existe, hein, et on le sait tous, il y a en ce moment une vraie révolte. On voit que le pouvoir met plein de pare-feu, hein, et notamment se sert de Le Pen, hein, et compagnie pour essayer de protéger sa police et ce racisme institutionnel. Est-ce que la CGT a sa place dans ce combat-là?
Tout à fait, évidemment. La CGT a toujours défendu, et d'ailleurs, ces questions-là. On ne peut pas. Que le RN aujourd'hui, on les voit sur tous les plateaux de télé, moi je dirais que c'est un peu normal. C'est un peu c'est le pouvoir là qui ordonne, parce que y compris ils n'ont plus lieu d'exister dans toutes ces manifestations, y compris ça les éclipse. Et seuls les médias qui sont au service du pouvoir ne peuvent les faire exister. Mmh. Et c'est pour ça qu'on les voit davantage, parce que sinon, parce que veux-tu qu'ils disent face à des milliers de mobilisations, on a beaucoup, parce qu'il y a les États-Unis, hein, avec les Nord-Américains, et aujourd'hui on voit bien que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe et même au travers le monde, ce sont pas les Noirs qui se mobilisent. C'est l'ensemble des populations, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur, voilà, il y a pas de différence. Je pense que y compris il y a une vraie évolution, et là forcément les fachos sont très emmerdés face à ça.
Et c'est une bonne chose.
Vraiment une bonne chose. Et la CGT, non seulement la CGT a toute sa place, et moi je dis que la CGT doit même conforter ses positions en appelant régulièrement avec
les organisations, avec les associations.
Toutes ces organisations, ces associations et ces collectifs contre le racisme. Parce que ça ne peut pas être que des mots, il faut aussi qu'on soit dans l'action.
Et s'il faut choisir les héros, alors choisissons les métallos. Il faut des métallos. Des métallos, il faut des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos, il faut des métallos, moins de pédalos.
Cette chanson est tout entière à la gloire des métallos qui fabriquent les cargos, qu'ils soient dans les hauts fourneaux. Ils portent le bleu de Chine, sont généralement costauds. Il y en avait plein la ville quand il y avait du boulot. Maintenant que nos usines n'existent plus qu'en photo, tous les jeunes se débinent, nous font l'arbin à casino. Hey,
des métallos, des métallos,
il faut
des métallos, moins de pédalos.
Enfin,
des métallos,
on veut
des métallos, moins de pédalos.
Dédicace à la Slota, c'est une cité au bord de l'eau. Il y avait le chantier, on y construisait des bateaux. Plus d'un millier d'ouvriers, jour et nuit, des coups de marteau. Et des gerbes d'étincelles qui faisaient rêver les minots. Oui, c'est un dur métier, c'est un fichu boulot. La sirène le matin, ah putain, qu'elles sont honnêtes. On sait bien que le travail, ça sera jamais rigolo. Que ce sont toujours les mêmes qui se gavent sur ton dos. C'est tout pour les patrons, jamais pour les polos. Mais tout le monde se sentait fier quand on lançait le bateau. Oui,
des métallos,
il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos,
il faut
des métallos, moins de pédalos.
Et voilà, un beau matin, les gars filent avec le magot. On explique sur les ondes qu'il n'y aura plus de bateaux, qu'on les fabrique moins cher à Singapour, à Bornéo, qu'il aurait fallu les faire ou plus petits ou plus gros. Les récalcitrants, on les soigne à la lacrymo. On n'a pas que les autres avec un peu de Nemo.
L'avenir est à la plage, ici ce sera Rio. Il y aura des avantages, on pourra ouvrir un resto.
6 mois après le carnage, la ville se réveille chaos. Les crapules immobilières comptent tranquillement les lingots.
Et des métallos,
il faut
des métallos, moins de pédalos.
Enfin,
des métallos,
on veut
des métallos, moins de pédalos.
Quand il fait à ma vie, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un paradis au bord de l'eau. Tout paraît immobile. De bateaux, quelques ombres de fil, la peste est-elle là de nouveau?
Il faut des métallos. Des métallos,
il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos,
métallophares, des métallos, moins de pédalos.
À Toulon, la scène à Marseille, c'est aussi le même topo. Dans la foire européenne, on tient le stand des rigolos. Il paraît que notre richesse, c'est avant tout la météo. Pensez de mai à octobre, on se balade tous en maillot. Ça attire les ingénieurs, ils y installeront leur labo. Ça, c'est des consommateurs, ça, c'est des jamais comme il faut. On va leur faire des boutiques et des ciné et des expos. À la place des fabriques, avouez que ça sera plus beau.
Non, mais non, seront plagistes ou iront bosser chez McDo. Si ces métiers, les actrices dans le nord, il y a du boulot. L'été, ils nous reviendront dans le long de fil d'auto pour dépenser au pays ce qu'ils auront gagné là-haut. Et
des métallos, des métallos.
Il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos, des métallos.
Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un paradis au bord de l'eau.
Raconte-leur, monsieur.
Tout paraît immobile, plus de grues de bateau.
Je vais fermer la
route.
Il faut, il faut, il faut, il faut.
Je vais fermer
des métallos, des métallos.
Il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut des métallos, des métallos.
Il faut
des métallos, moins de pédalos.
On veut
des métallos.
Radio Campus Lille 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Et voilà, c'est toujours l'heure de le mettre. Et pour conclure cette émission, on a interviewé déjà des huiles en quelque sorte, hein, des responsables de la CGT au niveau départemental ou régional. Encore une huile, William Orger, secrétaire général de la CGT au niveau de l'Académie de Lille pour l'éducation. William Orger, bonsoir.
Bonsoir.
Ça te dérange pas que je parle d'huile ? Non, c'est parce que la CFDT était pas libre. Hein.
Bah, je sais pas, en tout cas, moi je vais peut-être pas mettre beaucoup d'huile dans les rouages. Hein.
Hein,
oui. Des cailloux.
Oui, 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 il faut des cailloux. Et alors bon, que ça soit clair pour les auditeurs, hein, l'interview se déroule donc dimanche soir après le discours de Macron et avant la grande mobilisation du 16 juin, qui est une réussite exceptionnelle d'ailleurs, il faut le dire. Quelques mots peut-être sur cette intervention de Macron.
Cette intervention, elle est assez sidérante, hein, ma foi, hein, parce que bon, il balance quelques infos comme ça sur le coin d'une table, vite fait. Puis après, il fait un peu des grands discours en disant qu'il donnera la suite concrètement plus tard. Hein, on se reverra en juillet. Mais en ce qui concerne notre parti, dans l'éduc, il donne en passant quelques informations très rapides au début. Sur lequel évidemment qui laisse tout le monde un peu sidéré, quoi, parce qu'il annonce le grand retour de tout le monde à l'école le 22, dans 8 jours, hein, des écoles et des collèges précisément, que c'est fini la question du volontariat, de ne pas mettre ses enfants à l'école, mais que c'est obligatoire, enfin, le rappel. Puis en fait, on connaît pas les conditions concrètes, quoi. Il balance ça, et donc là, moi, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis avant de cette interview, forcément. Parce que les gens voient ça et les gens sont inquiets, forcément. Parce que il y avait un protocole sanitaire.
Ouais, est-ce qu'on peut faire toute l'histoire? Parce qu'elle me semble très complexe quand même. Enfin, moi, de l'extérieur, ce que je vois, c'est que au départ, les enseignants étaient salués pour leur travail formidable, leur inventivité, leur capacité à créer du lien avec les élèves à distance, comme ça, etc. Jusqu'à il y a quelques jours où on nous dit qu'il y avait des tirs au flanc, qu'il y en a qui ont carrément démissionné, etc., etc. Il y a eu des discours de Blanquer pendant toute cette période, tous ces derniers mois, qui ont été contredits, confirmés, recontredits par le pouvoir. Est-ce qu'on peut refaire une petite histoire au moins du confinement dans l'éducation nationale, quoi?
Non, mais ça risque d'être long, mais simplement en quelques mots, il est certain que faut pas oublier que l'école elle a fermé avant le confinement. Avant le confinement. Le confinement a commencé le 17 mars et l'école était fermée à partir du 16 mars. Hein, c'est-à-dire que dès le jeudi 12 mars, on apprenait que les écoles étaient fermées, d'accord? Avant même de confiner. Hein, faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que, évidemment, hein, c'était lié à ce que les scientifiques disaient, que les enfants, même s'ils n'étaient peut-être pas forcément très malades, mais étaient en tout cas des vecteurs du virus, hein, peut-être même des vecteurs asymptomatiques du virus, Mais, et que donc, de ce point de vue-là, les regroupements d'enfants étaient à éviter, quoi, par rapport à ça. Et donc, c'est ça qu'avait fondé la fermeture des écoles. Et donc, d'un seul coup, subitement, on a balancé tous les enseignants en télétravail, quoi, hein, pour dire les choses simplement. Ça a été inventé d'un terme, d'un concept de continuité pédagogique. Hein, Blanquer a sorti ça de son chapeau pour dire que voilà, on continue comme avant. Mais en fait, c'était de la propagande, c'était rien derrière, parce qu'en fait, l'éducation nationale n'était pas prête à ça, en réalité. Les réseaux ne tenaient pas le choc, que tout le monde se connecte en même temps, voire étaient inexistants. Il n'y avait pas des listings, notamment pour les écoles primaires, pour contacter les enfants, pour pouvoir donner du travail par le biais informatique. Rien n'était vraiment organisé. Et chacun, les enseignants, ils ont dû pallier à ces insuffisances. Les 15 premiers jours ou 3 semaines ou le premier mois, on va dire, les enseignants, ils ont bossé 3 fois plus que d'habitude, hein, de ce point de vue-là, pour essayer de pallier toutes ces insuffisances, essayer de prendre contact avec les élèves, donner du travail, essayer de faire quelque chose. Donc ça, et c'est pour ça que le discours actuel est très mal perçu par rapport à ce qui a été l'investissement face à une institution qui naviguait à vue, quoi, y compris les discours, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait reprendre, comment, chacun se débrouillait sans aucune directive pour essayer de faire un peu du mieux qu'il pouvait, quoi. Et ça a été un petit peu cette réalité.
Tu vas quand même pas dire que, y compris les chefs d'établissement, n'étaient pas au courant, eux non plus, ils n'étaient pas...
Non, mais après, bon, voilà, c'est une vaste institution, des fois, il y a des discours qui passent qui ne sont pas forcément relayés. Auprès des enseignants, il y a, hein, la hiérarchie fonctionne bien ou mal, quoi. On a plein de preuves que parfois il y a, y compris des discours qui étaient tenus en haut lieu, qui n'étaient pas répercutés en bas, quoi, ou vice versa, quoi. Donc de ce point de vue-là, on voit très bien que ça fonctionnait mal, que les informations circulaient mal, et que parfois on était toujours en train d'interpréter le fond de la pensée du chef, quoi, en quelque sorte. Blanquer s'exprimant davantage dans les médias que par la communication officielle, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, chaque enseignant se trouvait devoir écouter BFM TV pour écouter la dernière interview de Blanquer pour essayer de comprendre dans ses mots qu'est-ce qu'elle allait nous attendre dans 8 jours, pour savoir comment ça allait fonctionner. Hein, on l'a vu dès qu'on a parlé de reprise, Blanquer a annoncé quelque chose, qui d'ailleurs n'était pas tout à fait dans le même sens que ce qu'avait annoncé Macron, puis après on découvrait que maintenant c'était plus compliqué. Un espèce de capharnaüm total qui a donné le sentiment que ça allait un petit peu dans tous les sens et qu'effectivement il y avait du tirage entre eux, y compris Macron et Blanquer, hein, puisque forcément on sait très bien que la volonté de réouvrir dès le 11 mai, c'était une volonté politique de Macron. Hein, il fallait faire remarcher la machine économique au plus vite, que y compris Blanquer, de ce point de vue-là, a été pris au dépourvu par cette annonce. Qu'il a dû faire appliquer ça et face finalement au branle-bas des familles, des personnels, aussi des enseignants, des syndicats. Nous, la CGT, on était contre cette réouverture le 11 mai, mais de ce point de vue-là, en étant contre, on ne parlait pas d'un point de vue corporatiste, on parlait du point de vue de l'ensemble, des intérêts de l'ensemble de la société, et finalement, en harmonie avec ce que les familles disaient. Parce que les familles, très massivement, ont dit, et les sondages l'ont montré, non, on ne remettra pas nos gosses à l'école. Et face à ça, Macron a reculé. Il faut avoir ça en tête. Il a reculé en annonçant cette notion de volontariat. OK. Bon, ben, seulement ceux qui veulent. Finalement, ça a été un recul face à un constat. C'est d'ailleurs sur ce plan, simplement, qu'aujourd'hui il revient, hein, sur la notion du volontariat. Mais, et donc, effectivement, à partir du moment où c'était, il y a eu un recul qui montrait bien que le 11 mai était finalement trop tôt. Était trop tôt. Après, ça a été un petit peu du grand n'importe quoi pour savoir qu'est-ce qu'elle allait réouvrir. Puis non, pas tout de suite, puis après telle classe. Puis d'un seul coup, on apprenait que c'était finalement tout le collège, dans certaines zones. Donc, ça a été un peu comme ça jusqu'à présent, tout en sachant que la communication manque toujours d'une grande clarté. Hein. À l'heure où je parle, effectivement, on sait très bien que... Là, je parle là, donc, juste après, dimanche soir,
jeudi, ouais.
Hein, pour les auditeurs, et on apprend que Blanquer sera sur France Info, ou je sais plus, enfin, sur une chaîne, je pense que c'est France Info, demain matin, lundi, où il va s'exprimer. Ah, donc, du coup, imaginez, hein, là, la nuit que beaucoup vont passer pour se dire, bah, finalement, ça va être quoi le détail?
C'est
notamment sur le protocole sanitaire. le fameux protocole sanitaire.
Ah oui, parce que là, c'est très strict, oui.
Quand... Actuellement, il est strict. Le protocole... Blanquer veut l'alléger depuis 15 jours. Il le dit qu'il faut l'alléger. Il y a des tentatives. Est-ce qu'il faut faire le cours avec le masque? Est-ce qu'à un moment donné, on peut mettre plus d'élèves? Alors actuellement, c'est un élève par 4 mètres carrés. Il y a des conditions très strictes quand même qui sont posées. Est-ce qu'il faut l'alléger? Pour l'instant, à l'heure où je parle, nous n'en savons strictement rien. On dit tout le monde va retourner à l'école. Si tout le monde retourne à l'école, c'est pas possible. Un enfant par 4 mètres carrés, ça n'entre pas.
Et j'imagine qu'en plus que dans ces établissements scolaires, qui sont très nombreux bien sûr sur l'ensemble du territoire national, la mise en place de ce protocole sanitaire a dû être un véritable casse-tête. Et il s'agirait déjà de le défaire, là, en fait, si je comprends bien.
Oui. Après, qu'il puisse à un moment donné que le protocole soit adapté
évidemment.
À l'état de l'état scientifique, de la connaissance et de l'état de l'épidémie, ça, à la limite, pourquoi pas, à un moment donné. Mais ça nécessite d'être préparé en amont, d'être concerté, que ce soit une concertation qui soit faite, qu'on voit sur quel point il faut éventuellement adapter, est-ce que les conditions matérielles s'y prêtent dans les écoles. Mais là, encore une fois,
le président... C'est-à-dire que si je comprends bien, ça veut dire qu'y compris les syndicats découvrent, là tu disais, tes collègues de travail découvrent sur BFM TV ce qui les attend, quasiment au jour le jour, et doivent interpréter, ça veut dire y compris les syndicats ne sont pas informés, ne sont pas concertés, puisqu'il paraît qu'il y a des partenaires sociaux maintenant, on dit.
Ah ouais, non, mais aucun syndicat n'est informé. Même la CFDT n'est pas informée.
Oh putain.
De toute façon, il y a vraiment une présidence verticale, jupitérienne, paraît-il, mais elle s'applique de ce point de vue-là dans l'éducation nationale, y compris les instances de concertation qui peuvent exister à un moment donné, dites de concertation, ne jouent aucun rôle de ce point de vue-là, où c'est après coup. C'est après coup qui vont être informés, mais plein de choses, je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici, mais effectivement, c'est par les médias que les uns et les autres apprennent les choses, les choses, bien évidemment, et donc, voilà.
Dis-moi sur le sens maintenant de, parce que ce qui est mis en cause finalement à chaque fois, c'est le sens de ce métier-là, quoi. De ce métier d'éducation, on sait qu'il y a des intérêts derrière qui visent sans doute à casser ce service public ou à le rendre, à le rendre dépassé, quoi. On note une perte de sens hein, quand on parle à des enseignants par rapport à leur métier. Comment ils ont vécu cette période-là, sur ce que t'en sais, et comment les enfants, les élèves ont pu vivre ça? J'imagine que tu dois avoir aussi des enfants autour de toi. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, par exemple, sur la vaste question des inégalités sociales qui seraient creusées par le confinement, etc., etc. Vraiment, ouais. Quel est le ressenti des agents de l'éducation aujourd'hui?
Le ressenti majoritaire des agents de l'éducation, c'est de pouvoir clore cette parenthèse quand même. C'est quand même celle-là, c'est-à-dire qu'en fait personne n'est satisfait de ce qui s'est passé. Les enseignants veulent exercer en présentiel, en présence. Les enseignants sont conscients plus que jamais après la période qu'on vient de vivre que enseigner, c'est un acte qui nécessite d'avoir des élèves en face de soi, qu'ils puissent avoir une interaction, un échange. Et l'échange, il doit être physique. Il ne peut pas être avec un ordinateur ou une classe virtuelle. C'est ça aussi le constat. C'est que tous ceux qui ont essayé des nouvelles techniques, etc., faire des classes à distance, des visios, etc., qui ont essayé d'envoyer des devoirs par Internet, etc., montrent que tout ça, c'est des palliatifs qui ne règlent rien, qui en plus se heurtent évidemment aux inégalités sociales criantes. Hein, et ça, chacun a pu le constater, a pu découvrir, même parfois les enseignants qui étaient à son lieu d'imaginer que, tout le monde n'a pas plusieurs postes de travail et d'ordinateur dans les familles. Parfois, c'est la seule tablette ou le téléphone portable qui en fait office. Les connexions sont ce qu'elles sont, elles sont mauvaises aussi dans pas mal d'endroits. Et quand on a plusieurs dans une famille, c'est compliqué aussi d'essayer d'organiser son temps et de pouvoir être dans un état d'esprit, il y a besoin d'un cadre particulier pour être dans une situation d'apprentissage. Et elle se crée pas comme ça à distance. Donc chacun a pu le constater. Et que non, c'est pas de l'enseignement ça qu'on a vécu. Le vrai enseignement, c'est sur place, avec les élèves. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter. Et plus que jamais, c'est ça auquel on est attaché. Et on est très méfiant justement. Sur tout le discours que Blanquer qui laisse entendre que peut-être qu'on a testé des nouvelles formes, peut-être qu'à l'avenir il faudra réfléchir sur est-ce qu'on pourra faire à la fois du présentiel et du distanciel, comme on dit. Ça, on est extrêmement méfiant. Nous on dit non, le vrai enseignement c'est en présence. Mais alors attention, c'est là où il y a un piège. C'est toujours, ça a été de dire alors donc vous voulez qu'on soit tous en présentiel, voilà, on va reprendre tous tout de suite. Non, on est en présentiel, mais dans des conditions sanitaires, évidemment, on était dans une période particulière. Ça nécessite quand même des conditions sanitaires respectées, faut faire attention, etc. On n'a jamais prôné la reprise à n'importe quelle condition, justement, il y a les conditions sanitaires, mais on est quand même attaché de rappeler que ce qui a dû être fait à cause de cette crise, ce qui a dû être fait, le travail à distance, c'était pas du travail, c'était un lien qui était maintenu, un lien social qui était maintenu finalement, ou un minimum pédagogique avec les élèves, parce que voilà, c'était une tentative, mais chacun comprend bien qu'il y en a qui n'ont pas pu qu'on lâchait prise et que il y a mille de raisons qui expliquent que les uns et les autres lâchent prise, quoi.
Que ce soit les élèves ou les profs d'ailleurs, j'imagine, non?
Bon, les profs, ça c'est une vaste blague, ça, quand on dit qu'il y a eu des profs décrocheurs, mais après, ceci dit, on ne connaît pas non plus ce qui se passe dans les familles des profs.
Les profs sont des
citoyens comme les autres, ils ont des drames familiaux.
Ils ont peut-être des enfants qui ont besoin d'ordinateurs.
Voilà, tout à fait, ou des gens malades auprès d'eux, ou des situations à devoir s'occuper, à devoir gérer leurs gosses sans arrêt, qui étaient occupés. Donc c'est pas évident aussi, c'est des travailleurs comme les autres.
Alors, pour conclure, William Roger, ton analyse, je dirais, sur le global cette fois, sur cette épidémie et sur la crise en vérité profonde du capitalisme qui est en train de se révéler, qui n'a pas fini de se révéler d'ailleurs, et sur la riposte qu'il faut y avoir dans un contexte où on voit que les colères n'ont pas attendu trop longtemps pour se déconfiner, quoi.
Absolument, c'est pour ça que la journée du 16 est une date super importante de ce point de vue-là, hein, parce que on a besoin évidemment d'être tous ensemble, notamment avec les personnels soignants qui étaient soi-disant devenus les premiers de cordée, ceux qui étaient au front, hein, et donc maintenant, mais c'est ceux à qui on ne donne que des médailles en chocolat, hein, donc ça c'est scandaleux. Non, je crois qu'on a tout intérêt d'être vigilant et sur ce qui va nous tomber dessus, quoi, ceux qui nous tombent déjà dessus. C'est-à-dire que la tendance va être de vouloir nous faire payer la crise, en quelque sorte, hein, nous faire payer l'addition. Hein. Ils ont débloqué de l'argent, c'est sûr que la compensation du chômage partiel, tout ça, ça coûte. Il y a des milliards d'euros qui ont été... il y a de la dette qui a été créée, mais c'est pas à nous de la payer, quoi. C'est pas à nous de la payer. C'est ça la question clé. C'est qu'à un moment donné, on a été mis dans cette situation parce que l'État n'avait été aussi imprévoyant. Je pense quand même que, de façon plus globale, que ce confinement, drastique, qui a été mis en place, était dû aussi, pour une large part, au fait qu'on avait un État imprévoyant qui n'a pas vu.
Pas assez de lits, pas assez de respirateurs, pas assez de masques.
On a détruit les masques, les stocks, et on n'a pas vu prévenir quand la Chine a prévenu et que l'OMS y compris a prévenu. Je rappelle quand même que le samedi, un samedi matin de fin février, j'ai plus la date exacte, le gouvernement se réunissait en situation extraordinaire un samedi matin, un conseil extraordinaire sur la question du coronavirus, hein, c'était l'ordre du jour.
Et ça aboutit par le 49-3 pour nous niquer sur la réforme des retraites.
Voilà, donc c'est nous dire un peu dans quel état d'esprit ils étaient, quoi. Et donc tout ça a peut-être aggravé la situation et a obligé d'avoir un confinement finalement assez strict qui a coûté cher, quoi, de point de vue qui a coûté cher, mais ça c'est aussi à cause de l'impréparation. Et donc maintenant c'est pas à nous de payer. Je veux dire, les fortunes sont, je lisais encore ces jours-ci combien le 1% de plus riches en France a comme patrimoine et touche comme dividende pour ce qui est des grands patrons du CAC 40, c'est des milliards, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas ceux qui ont rien dans leur poche qui vont devoir payer la dette de l'État, quoi. C'est à un moment donné.
Et on en est où de ce rapport de force? Est-ce que ton organisation, la CGT, est-ce que dans son ensemble, hein, est-ce que tu estimes que vous êtes à la hauteur, je dirais d'un point de vue strictement numérique, mais également qualitatif? Est-ce que vous êtes à la hauteur des enjeux qui viennent là, parce que je pense que tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait qu'on est à un tournant là.
Je pense qu'il faut qu'on se mette à la hauteur, en tout cas. Si on ne l'est pas assez, il faut qu'on s'y mette. Numériquement, on aimerait toujours être davantage de personnes convaincues et organisées, mais on a besoin d'organisation, c'est ça qu'on voit. Mmh. C'est qu'il va falloir je pense que l'aspect, il y a toujours du positif dans le négatif, c'est-à-dire l'aspect positif de la période, c'est que beaucoup de consciences se sont éveillées.
Oui.
Ça c'est clair, c'est que maintenant la nature du système et l'aspect cynique de ce gouvernement apparaît de plus en plus, et la nécessité de dire qu'à un moment donné, il faut privilégier la vie avant le profit, il faut nos conditions de la vie est trop précieuse, y compris nos conditions de vie, nos conditions sont aussi très précieuses, c'est ça qu'il faut défendre. Je pense que beaucoup en ont conscience. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment suffisamment armé pour faire face à cette bataille-là? Malheureusement, pas encore suffisamment, mais c'est un long chemin. Moi, je reste optimiste, mais il faut en tout cas qu'on ait tous conscience qu'il faut qu'on se remue. Nous, en tout cas, on essaie de faire le maximum, mais on sait qu'on a en face de nous un gouvernement qui est prêt à toutes les manipulations, à tous les coups bas, à utiliser, y compris les mobilisations formidables de la jeunesse contre le racisme et les violences policières.
À utiliser l'extrême droite.
Pour essayer de détourner ça, pour essayer de faire monter l'extrême droite, pour essayer de briser, éviter les solidarités. On le voit. Bon, malheureusement, tout le monde ne le voit pas. Mais on va continuer à...
D'ailleurs, cette jeunesse qui se soulève, là, c'est quand même... parce que ce confinement a eu des effets, ça c'est sûr. Il y a peut-être des effets inattendus sur la jeunesse en question. Hein, c'est quand même assez puissant, quand même, comme mobilisation.
Ouais, mais c'est ça. Mais bon, il y avait aussi... ça montre aussi qu'il y a une nouvelle génération qui... parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est leur première mobilisation. Hein.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de gens pour qui c'est leur première mobilisation. Et donc, des fois, c'est la vie. Il faut un déclencheur qui arrive. Il est là. Voilà. Je ne sais pas si le confinement... c'est sûr que le confinement, le fait de
oui, le confinement, la crise aussi, hein, oui,
de rester enfermé pendant un moment donné, ça n'aide pas, ça. Et à un moment donné, il y a une volonté d'autant plus, à la limite, de sortir après, peut-être, mais c'est aussi, je pense, davantage la réalité, quoi, du système qui est révélé, quoi. Les gens sont de plus en plus attentifs et observateurs, y compris sur les réseaux sociaux, qui jouent un grand rôle aujourd'hui sur le moindre fait, le moindre acte. Il y a une sensibilité à ces questions-là. Le moindre fait médiatique aujourd'hui peut être vécu comme il a été vécu, un effet déclencheur, je crois. L'affaire George Floyd a été un effet déclencheur de ce point de vue-là.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi, en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darman et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira: bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas: je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire racketter. 35 élèves, cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier.
J'ai des Zidane, 15 Amel, Bette et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le mec qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser avec vos semaines de 20 heures. Vous bossez moins qu'un contrôleur et dire que je paye pour mon gamin. Il a redoublé son CE1, vite les bulletins à remplir. 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps. Faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait. Eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes faut les simplifier. Y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudra peut-être songer à les adopter. Venir l'élever le matin, le soir les coucher. Et peut-être dormir à leur place. Pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe. Et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça. La sécurité de l'emploi.